Vous écoutez, on lit pour vous.
Objectif, vivre 120 ans en bonne santé, un texte de Nicolas Gutiérrez C, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir. Cassure d'ADN, altération épigénétique, raccourcissement des télomères. Les chercheurs ont déjà identifié une douzaine d'événements qui contribuent au vieillissement cellulaire. Interférer sur ce processus biologique permettrait de mieux combattre les pathologies liées à l'âge. Cancer, maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives, les pathologies les plus meurtrières aujourd'hui sont toutes liées à l'âge. À tel point que le vieillissement n'est plus simplement considéré comme un facteur de risque, mais comme la cause même de ces maladies. Les recherches sur la biologie du vieillissement convergent vers ce nouveau concept. La vieillesse serait la mère des maladies et les pathologies liées à l'âge ne seraient que les conséquences de ce processus biologique, lance Jean-Marc Lemaître, directeur de recherche INSERM à l'Institut de médecine régénératrice et de biothérapie de Montpellier, IRMB. Une nouvelle approche dont découle cet objectif, bloquer le vieillissement pour éviter ces maladies causées par l'âge. Mais pour stopper ce processus, il faut d'abord le comprendre. Les experts du domaine ont déjà identifié une douzaine d'événements qui contribuent au vieillissement cellulaire, détaillés dans un article publié dans le journal Cell. Il s'agit d'un processus biologique qui nous atteint tous, caractérisé par des mécanismes moléculaires et cellulaires qui, ensemble, déterminent le phénotype du vieillissement, résume Carlos López Otín, auteur de l'article et professeur de biochimie et biologie moléculaire à l'Université d'Oviedo en Espagne. Certains de ces mécanismes déclenchent directement le processus du vieillissement en causant des dommages qui s'accumulent avec l'âge, tels que les cassures d'ADN, les altérations épigénétiques, marques régulant l'expression des gènes, et le raccourcissement des télomères, des morceaux d'ADN qui protègent l'extrémité des chromosomes. Autant de mécanismes qui, in fine, conduisent à une inflammation chronique des tissus et à l'épuisement des cellules souches. De nombreuses recherches ont montré que ces événements, loin d'être indépendants, sont liés. Ainsi, des interventions ciblant l'un de ces mécanismes pourrait avoir une conséquence sur les autres, et donc sur tout le processus du vieillissement cellulaire. Encore faut-il identifier la cible la plus pertinente pour l'enrayer dans sa globalité. De ce point de vue, ce sont les altérations épigénétiques qui ont une longueur d'avance. De nombreux mécanismes interviennent dans le vieillissement de la cellule, mais ils sont très variables d'un individu à l'autre, relève Steve Horvath, chercheur à l'Institut de sciences Altos Labs à Cambridge, Royaume-Uni. Tous, sauf un, la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire les modifications chimiques qui opèrent pour réguler l'expression des gènes. Ces méthylations sont très étonnantes, car on dirait qu'une partie de ces modifications suit un programme très précis. Elles sont très similaires d'un individu à l'autre, à travers toutes les espèces de mammifères. Cette programmation très précise que l'âge semble imposer à ces méthylations concerne principalement les cytosines, le C des quatre acides nucléiques, ou l'être qui compose notre ADN, ATCG. L'équipe de Steve Horvath à l'Université de Californie à Los Angeles, États-Unis, où il était professeur avant de rejoindre Altos Labs, a mis en évidence un groupe de près de 12 000 cytosines très bien conservée chez les mammifères et dont la méthylation permet d'estimer l'âge de chaque espèce. Une véritable horloge biologique présentée en août 2023 dans le journal Nature Aging, 10 ans après avoir montré sa grande précision chez les humains. Je pense que l'existence de cette horloge épigénétique est due au fait que ces méthylations jouent aussi un rôle dans le développement de l'organisme, lequel consiste en une programmation des cellules dont ferait partie le vieillissement, juge Steve Horvath. Ainsi, la dégradation liée à l'âge n'est pas seulement causée par l'entropie, comme une voiture qui rouille avec le temps. Une partie de ce processus est programmée, ce qui veut dire qu'on peut la reprogrammer. Reprogrammer les cellules pour les rajeunir. C'est précisément à cela que s'attachent nombre d'équipes, remettre à zéro le programme épigénétique de la cellule, notamment en adaptant un procédé qui permet de transformer les cellules adultes en cellules souches pluripotentes, pouvant se différencier en n'importe quel type cellulaire. Une technique extraordinaire qui avait valu le prix Nobel de médecine 2012 à ses concepteurs, le japonais Shinya Yamanaka et le britannique John Gurdon. C'est ce que tente de faire Vittorio Sebastiano à l'Université Stanford, États-Unis. Nous donnons aux cellules un cocktail d'ARN messager codant des protéines qui reprogramment la cellule. Mais on ne les traite que sur un laps de temps très court pour que la cellule rajeunisse, mais ne perde pas son identité. Avec cette technique, son équipe a rajeuni le muscle de souris de 24 mois, équivalent à un âge de 90 ans pour un humain, pour le rendre semblable à celui de souris de 6 mois, équivalent à 30 ans. L'objectif de son équipe est désormais d'utiliser ce cocktail pour rajeunir des tissus spécifiques du corps humain en donnant un coup de jeûne aux cellules souches fatiguées afin qu'elles régénèrent le tissu dégradé par l'âge ou la maladie. Avec sa start-up Turn Bio, il espère lancer son premier produit rajeunissant pour la peau en 2025. Vous écoutez Objectif vivre 120 ans en bonne santé, un texte de Nicolas Gutiérrez C, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir. Outre l'épigénétique, un autre aspect du vieillissement cellulaire semble étroitement lié à l'âge biologique, la longueur des télomères. Ces structures sont faites d'ADN non codant, sur lequel se fixent des protéines qui, ensemble, forment comme un capuchon protégeant les extrémités des chromosomes. Nos chromosomes sont linéaires. Cela veut dire que leurs extrémités ressemblent beaucoup à une cassure de l'ADN, comme il en arrive tout le temps. Sans les télomères, celles-ci seraient reconnues comme des cassures accidentelles par les systèmes de réparation qui essaieraient de les recoller. Cela entraînerait des instabilités chromosomiques, les cellules arrêteraient de se diviser et la vie serait impossible, détaille le professeur Eric Gilson de l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement, IRCAN, à Nice. Reste qu'à chaque division cellulaire, ces télomères raccourcissent, jusqu'à devenir trop courts pour assurer leur fonction protectrice. C'est alors que la cellule arrête de se diviser et entre en sénescence. Cibler les cellules sénescentes. Certaines équipes travaillent donc à rallonger ces télomères pour retarder l'arrivée de la sénescence cellulaire, étape clé du vieillissement. Par exemple, Maria Blasco, directrice du groupe Télomères et Télomérase au Centre national de recherche sur le cancer en Espagne, CNIO, cherche à traiter les cellules avec de la télomérase, une enzyme naturellement produite durant le développement embryonnaire qui allonge la taille des télomères. Attention toutefois, s'injecter de la télomérase, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire, prévient Eric Gilson, car le raccourcissement des télomères joue un rôle important en nous protégeant notamment des cancers et autres stress cellulaires. S'il y a un risque oncogénique, l'organisme sera plus vite alerté si les télomères sont courts, poursuit-il. Cela peut éviter une prolifération cancéreuse rapidement. Alors qu'avec des télomères longs, il y aura plus de division avant que l'alerte ne soit donnée. La cellule aura donc le temps d'accumuler plus de mutations cancéreuses. Eric Gilson propose donc une nouvelle approche, ciblant les protéines du télomère sans toucher à leur longueur. On peut imaginer des systèmes de ciblage pharmacologique pour s'attaquer seulement aux parties de ces protéines qui sont vraiment délétères et garder ce qui est bon. Nous pourrions alors augmenter la durée de vie sans accroître les risques de cancer. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est la direction qu'on prend. S'il est ainsi possible de retarder l'avènement de la sénescence cellulaire, celle-ci arrivera tôt ou tard. Or, ces cellules sénescentes sécrètent des facteurs pro-inflammatoires qui peuvent endommager les cellules avoisinantes, accélérant le processus de vieillissement. Le système immunitaire est normalement en charge de supprimer ces cellules. Ces facteurs pro-inflammatoires sont d'ailleurs le signal permettant de les repérer, précise Jean-Marc Lemaître. Mais avec l'âge, le système immunitaire les reconnaît de moins en moins, donc elles s'accumulent et causent en permanence de l'inflammation. Et ces facteurs pro-inflammatoires débordent vers d'autres tissus dans une sorte de phénomène de contagion qui vieillit tout l'organisme. Pour enrayer ce processus, on peut cibler les cellules sénescentes avec des sénolytiques, des molécules qui dégradent spécifiquement ces cellules. Sur des modèles animaux, elles ont déjà permis de rallonger significativement la durée de vie en bonne santé. Ces molécules sénolytiques font déjà l'objet d'essais cliniques aux États-Unis sur des pathologies liées à l'âge, révèle le chercheur. La restriction calorique donne un coup de jeûne aux cellules. En attendant, des interventions ont déjà montré qu'il était possible de rajeunir les humains. C'est le cas de la restriction calorique. Un essai randomisé publié en février 2023 dans le journal Nature Aging a montré que diminuer d'environ 15 % l'apport calorique ralentit de 2 à 3 % le vieillissement cellulaire chez des adultes en bonne santé. Lorsqu'on fait de la restriction calorique, le manque de nutriments pousse la cellule à en produire. Pour ce faire, elle dégrade les protéines et en fabrique de nouvelles. Cela donne un petit coup de jeûne à la physiologie de nos cellules. Détaille Jean-Marc Lemaître. Et il est possible d'imiter cet effet en utilisant certains médicaments existants, tels que l'antidiabétique metformine. Les patients qui en prennent ont moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires, moins de maladies neurodégénératives et vivent plus longtemps que la majorité des gens qui ne sont pas diabétiques et ne prennent donc pas de metformine. Mon collègue aux États-Unis, Nir Barzilai, directeur de l'Institut de recherche sur le vieillissement au Collège de médecine Albert Einstein à New York, aux États-Unis, va tester l'efficacité de la metformine sur des non-diabétiques pour voir si, effectivement, ça retarde toutes les pathologies liées à l'âge. C'est dans les tuyaux, ça ne devrait pas tarder, révèle-t-il. Avec toutes les recherches en cours, je pense que vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé n'est pas un objectif inatteignable. En ciblant les protéines des télomères, nous pourrions augmenter la durée de vie sans accroître les risques de cancer. Eric Gilson, Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement, à Nice. C'était Objectif vivre 120 ans en bonne santé, un texte de Nicolas Gutiérrez C, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir.
Doit-on éviter d'en consommer? Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 10 décembre 2024 dans La Presse. En France, une prescription médicale est désormais requise pour certains médicaments contre la congestion nasale en vente libre au Québec, comme ceux des marques Tylenol, Advil et Réactine qui contiennent un ingrédient précis. La raison? Parce qu'ils peuvent entraîner de graves effets secondaires. Où retrouve-t-on ces produits? La France oblige à partir d'aujourd'hui les patients à détenir une prescription d'un médecin s'ils souhaitent se procurer des médicaments contenant de la pseudoéphédrine, un ingrédient utilisé pour soulager des symptômes comme la congestion nasale. Cette décision survient après des alertes sur les dangers possibles de ces produits. Certains médicaments renfermant cet ingrédient sont en vente libre au Québec. C'est notamment le cas des Tylenol rhume et sinus, Tylenol enfant rhume et toux, Advil rhume et sinus jour et nuit, Claritin allergie et sinus, Réactine allergie et décongestionnant et Bénilin tout en un. Sur l'emballage, cet ingrédient apparaît sous le nom de chlorhydrate de pseudoéphédrine ou sulfate de pseudoéphédrine. Quels sont les risques liés à ces médicaments? La pseudoéphédrine agit en rétrécissant les vaisseaux sanguins dans le nez, ce qui permet de réduire l'enflure et faciliter la respiration. Bien qu'efficace pour contrer la congestion nasale, ce médicament peut causer des problèmes cardiaques, de l'arythmie, de l'insomnie, de la nervosité, des tremblements et n'est pas compatible avec certaines conditions comme l'allaitement. Détaille Marie-Pascale Beaulieu, directrice des services pharmaceutiques de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, AQPP. Le médicament peut également provoquer, dans de très rares cas, de graves problèmes de santé, comme des accidents vasculaires cérébraux, AVC, des infarctus ou des réactions allergiques sévères. Devrait-on éviter de consommer ces produits? Pour quelqu'un qui est en bonne santé, habituellement, ça ne va causer aucun problème, indique Pierre-Marc Gervais, pharmacien et chargé de cours à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Il invite les patients à demander l'avis d'un pharmacien en cas de besoin. Les patients atteints de maladies cardiaques devraient toutefois éviter ces médicaments, tout comme les personnes âgées, soutient Mme Beaulieu. Il y a trop de risques au niveau cardiaque. Les risques sont-ils les mêmes pour les enfants que pour les adultes? Les enfants sont généralement plus sensibles aux effets indésirables. Comme pharmacien, je vais avoir tendance à éviter ce produit-là chez les enfants. On a d'autres alternatives plus sécuritaires, souligne Pierre-Marc Gervais. Aucun traitement pour le rhume n'est recommandé pour les enfants de moins de 6 ans, précise Mme Beaulieu de l'AQPP. Le Québec devrait-il emboîter le pas à la France? Non, estime Pierre-Marc Gervais. Je trouve ça excessif. Je pense que ça va créer des rendez-vous médicaux qui sont inutiles parce que les rhumes sont souvent une condition très banale pour la plupart des gens. Par ailleurs, le Québec réglemente déjà certains produits à base de pseudoéphédrine. À la pharmacie, les médicaments qui dépassent 1200 mg par emballage ou qui contiennent uniquement cet ingrédient médicinal doivent être tenus derrière le comptoir. Des pharmaciens ont également pris la décision de garder derrière le comptoir tous les produits contenant cet ingrédient, ajoute Mme Beaulieu. par quoi remplacer la pseudoéphédrine? D'autres options existent pour soulager les symptômes du rhume, comme les vaporisateurs ou lavages nasaux à base d'eau salée, qui peuvent aider à décongestionner le nez. C'est moins agréable, mais plus efficace et sécuritaire, commente Marie-Pascale Beaulieu. En cas d'allergie, les antihistaminiques peuvent également aider à réduire l'écoulement nasal, renchérit M. Gervais. Quand aller voir un médecin? Marie-Pascale Beaulieu invite les patients qui s'interrogent sur leur état de santé à consulter leur pharmacien en premier lieu. Les patients devraient consulter un médecin s'ils présentent des symptômes de rhume qui ne s'améliorent pas ou qui s'aggravent après 2 semaines, ou s'ils ont de la difficulté à respirer, une respiration sifflante, une raideur au niveau de la nuque, des éruptions cutanées ou une très grande fatigue, détaille M. Gervais. C'était « Doit-on éviter d'en consommer ?» un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 10 décembre 2024 dans La Presse.
Vive inquiétude dans les rangs de BANQ. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. Des employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, sont inquiets. Un gel du recrutement et du recours aux heures supplémentaires menace d'effriter la qualité du service dans cette institution dont l'achalandage est reparti à la hausse dans les dernières années. Déjà, certains de ces effets se font sentir. Depuis le 1er novembre 2024, le gouvernement du Québec impose un gel du recrutement externe dans la fonction publique. Certains établissements du réseau de la santé et de l'éducation, ainsi que quelques sociétés d'État, en sont exclus. Mais pas BANQ, qui compte dans ses installations à travers la province la plus grande bibliothèque francophone de l'Amérique du Nord. Résultat, l'institution culturelle ne peut plus remplacer les employés partis à la retraite ou chez d'autres employeurs, ni renouveler les contrats qu'elle a conclus avec plusieurs d'entre eux. Pour le moment, le gouvernement n'a pas annoncé de coupure, donc c'est juste un gel. Si les gens partent, ils ne sont pas remplacés. Mais il n'y a pas de coupure, a assuré en entrevue au Devoir mardi le directeur des services au public de la Grande Bibliothèque, Sébastien Nadeau. Des répercussions importantes. Or, même si aucun poste n'est supprimé en soi, les non-remplacements et non-renouvellements de contrats auront pour effet de réduire le nombre d'employés de BANQ et donc d'augmenter la charge de travail sur ceux qui restent. Ces derniers pourraient eux-mêmes être tentés de partir pour améliorer leurs conditions de travail, prévient Guillaume Bouvrette, président du syndicat de professionnels et professionnels du gouvernement du Québec. Ça crée un cercle vicieux, ajoute celui qui représente notamment les bibliothécaires de BANQ. Avec les gels d'embauche, j'ai beaucoup de collègues occasionnels qui vont se trouver sans emploi dans les prochains mois parce qu'ils ont des contrats qui ne seront pas renouvelés en raison de la directive gouvernementale, confirme pour sa part Sylviane Cossette, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs unis de BANQ. Elle représente notamment les commis de bibliothèque de l'organisation et divers postes de techniciens, dont plusieurs ont un statut précaire de surnuméraire. Il y aura moins d'effectifs au final, et le service aux usagers sera ralenti, selon Mme Cossette, qui constate que le moral est pas mal bas parmi ses collègues. Les risques de départ sont d'autant plus grands que, selon des données fournies par ces deux syndicats, plusieurs corps d'emploi continuent d'être moins bien rémunérés au sein de BANQ que dans les bibliothèques municipales de Montréal et de sa banlieue. Les répercussions de cette mesure gouvernementale ne sont d'ailleurs pas que théoriques, puisque certains effets de ce gel se font déjà sentir dans la Grande Bibliothèque et certaines installations rattachées aux Archives nationales, a confié M. Nadeau. On priorise certaines activités pour redéployer les gens et on va prendre du retard dans certains services, comme le traitement des réservations de documents, a-t-il évoqué. Ainsi, Au lieu de répondre dans un délai de 24 heures, on va répondre dans un délai de 48 ou de 72 heures, ce qui nous permet de dégager une certaine marge pour être capable de maintenir notre offre de service sur place, principalement pour la grande bibliothèque, a-t-il ajouté. Certaines installations disposant d'une marge de manœuvre moins importante que la grande bibliothèque, qui compte des centaines d'employés, ont pour leur part dû prendre des mesures plus radicales. Ainsi, depuis le 18 novembre, le Centre des archives nationales situé à Rimouski n'est plus ouvert le lundi en raison d'un poste vacant qui ne peut être pourvu pour l'instant. Des besoins croissants. Ce gel de recrutement survient au moment où l'achalandage des installations de BANQ a repris dans les dernières années, se remettant ainsi tranquillement des répercussions de la pandémie sur le nombre de ses visiteurs. Les emprunts sont aussi à la hausse, même si, à près de 3 millions en 2023, on est loin des 6 millions notés en 2016. Les employés de BANQ doivent de surcroît accommoder des usagers vieillissants et une population itinérante croissante, deux catégories de personnes qui requièrent une attention particulière et donc plus de temps de la part d'employés bien occupés, relève Marie Martel, professeure à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'UQAM. Les heures supplémentaires sont par ailleurs interdites jusqu'à nouvel ordre à BANQ, où le recours a pourtant connu une hausse marquée au cours des deux dernières années pour répondre à divers besoins. Pourtant, on ne peut pas faire plus avec moins, relève Mme Martel, selon qui les restrictions budgétaires imposées par Québec risquent de diminuer l'efficacité de BANQ et de compromettre son rôle social et culturel important. Joint par Le Devoir, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a rappelé que toutes les sociétés d'État qui relèvent de sa gouverne doivent, sans exception, respecter les budgets qui leur sont alloués, ainsi que le gel de recrutement imposé par le secrétariat du Conseil du Trésor. Nous demandons que les services à la population ne soient pas affectés. Nous avons confiance que l'équipe de direction de BANQ saura les maintenir, ajoute le ministère. Or, dire que ça n'aura pas d'impact sur la population, c'est de prendre des gens pour des valises, lance Guillaume Bouvrette. Il y aura des impacts pour les gens, martèle-t-il, incluant à la grande bibliothèque. C'était « Vive inquiétude dans les rangs de BANQ », un texte de Zachary Goudreau, paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.